Fréquencier, info locale, confinement.
Docteur Emmanuel Charrier, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes l'un des médecins de la maison de santé pluridisciplinaire de Ciel-Guillaume. Et ce qui va évidemment nous intéresser, c'est que vous ayez une approche très pédagogique par rapport à la maison de santé, de façon à savoir comment, dans cette période particulière de développement du Covid-19, comment les patients de ce secteur de Ciel-Guillaume peuvent accéder à vos services. D'abord, est-ce que la maison fonctionne globalement en entier? Est-ce que tous les praticiens peuvent exercer actuellement?
Eh bien, depuis le début de l'ouverture de la maison de santé en 2013, on fonctionne normalement. Encore plus en ce moment, puisqu'on a, par obligation, revu notre organisation pour assurer... quatre missions. La première, c'est accueillir les patients dans des conditions de sécurité sanitaire qui ont besoin de soins classiques et les renouvellements des diabétiques. Parce qu'il faut bien savoir que cette période de confinement ou d'épidémie va durer dans le temps. Il y a des patients qui souffrent de pathologies chroniques qui peuvent décompenser. Il y a des malades qui peuvent encore avoir mal au dos, etc. Il faut pouvoir leur assurer une continuité des soins avec leur médecin habituel, leur infirmière habituelle. Donc, tout l'étage est organisé pour recevoir des patients qui ne présentent aucun symptôme ORL. Ça, c'est le premier point.
Donc, le point de repère, c'est CORL. Dès que c'est ORL, on ne monte pas à l'étage, c'est ça?
Oui, l'étage est réservé à des patients qui... Comment ça s'organise, en fait? C'est ça que vous voulez savoir.
On a fait
un accueil administratif en bas de la maison de santé. Deux étudiants qui... évidemment, pour l'instant, les universités sont arrêtées, nous ont renforcé l'équipe et accueillent les patients et leur demandent tout simplement s'ils ont de la toux ou de la fièvre ou des symptômes ORL. Si c'est le cas, ils sont orientés vers le secteur du bas qui contenait avant les paramédicaux. Si c'est pas le cas, ou si les patients appellent le standard, ils sont orientés vers l'étage. Le but du jeu, c'est que ce tri, entre guillemets, à l'accueil, permettent aux patients de n'avoir qu'un seul contact dans la maison de santé, alors qu'avant, ils pouvaient en avoir plusieurs. Comment ça s'organise? Il y a un paravent en plexiglas qui permet de sécuriser l'administratif et le patient. Nous avons organisé un fléchage au sol qui permet d'avoir une distanciation sociale, comme dans tous les lieux publics. Et le patient va avoir qu'un seul contact dans la maison, c'est-à-dire soit avec son infirmier traitant, soit avec son médecin traitant, qui a besoin de l'examiner. Et le médecin et les soignants à l'étage, j'espère bientôt les patients qu'on aura des masques, portent un masque. Donc le médecin porte un masque parce que si lui ne porte pas de masque, il va avoir 50 contacts dans une journée. Et s'il incube la maladie, il risque de transmettre à 150-200 personnes. Donc vous comprenez bien que les soignants doivent non pas se protéger des patients, mais protéger leurs patients d'un éventuel professionnel de santé malade. Donc ça, c'est le premier point, engagement des maisons de santé ou cabinets organisés. On sépare les flux, soit physiquement et parfois dans le temps, dans des cabinets plus petits, des patients malades. Puisque d'autres structures dans la Sarthe, évidemment, accueillent toujours les patients. Et là, souvent, c'est le soir ou le matin, on voit les malades tout fiévreuses. Mais chez nous, c'est à l'étage.
Donc, ce que l'on peut dire d'un premier temps, donc pour être clair pour toutes les auditrices et auditeurs, c'est que si on a des pathologies classiques ou si on est suivi par son médecin, etc., on peut aujourd'hui encore aller... en sécurité à la maison médicale. Voilà, c'est ça qui est important aussi à dire, c'est pour rassurer les gens.
Bien sûr, le confinement n'interdit pas l'accès aux soins. Les attestations permettent pour le maintien de sa santé de consulter les praticiens. C'est vrai qu'à titre exceptionnel, les pharmacies ont eu le droit de renouveler une fois. Ça ne doit pas être la règle, d'autant plus que ça peut durer quelques mois et que malheureusement, le virus... à moindre échelle, risque de continuer de circuler sur notre territoire.
Alors justement, on va y venir à ce virus, à ce Covid-19. On connaissait les chiffres d'hier. La Sarthe est à un niveau de 43 pour 100 000 habitants, donc en termes de personnes touchées. C'est le département le plus touché actuellement sur la région des Pays de la Loire, tout en étant en dessous de beaucoup d'autres taux dans d'autres régions. Il ne faut pas non plus affoler tout le monde, mais il faut avoir avoir conscience que ce virus est là. Donc si quelqu'un a un doute, et on verra après les symptômes et comment s'observer et veiller sur soi à la maison. Donc voilà, on a un symptôme, deux symptômes, trois symptômes, ou on a un problème ORL. Alors expliquez-nous exactement quel est le chemin qui est suivi à partir du moment où on a rencontré ces étudiants volontaires, en fait, qui sont là pour accueillir.
C'est vrai que l'État dit, si vous avez des symptômes, appelez le 15. Bien sûr qu'il faut appeler le 15, parce que de toute façon, vous aurez un tri qui est fait, que ce soit ici ou au 15. Ce qui est fait ici, par contre, c'est que nous assurons la sécurité des patients. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appeler le 15 pour, si vous avez des symptômes du coronavirus, pour venir à la maison de santé de Sille. Si vous avez un symptôme ORL, ce qu'on appelle haut, rhino-pharyngite, mal de gorge, maux de tête, ou bas, essoufflement, toux, ou des symptômes généraux, courbatures, frissons, nous admettons que c'est un Covid possible. C'est la définition. C'est-à-dire que le médecin ou le paramédical estime que on est possiblement infecté du Covid. Sur le plan comme ça grammatical, on parle de Covid suspect. Ça, c'est le malade qui dit « Oh là là, j'ai vu quelqu'un, je crois que j'ai le Covid ». Ça, c'est Covid suspect. Si le médecin relève des symptômes, il parle de Covid possible. Et ensuite, en dernier lieu, on parle de Covid positif s'il y a eu un test. On en parlera plus tard. Donc aujourd'hui, oui, vous vous présentez au cabinet et vous dites « Je viens pour mon renouvellement, mais je tousse un peu ». Vous êtes orienté vers un secteur dédié où là, on vous met un max dès l'entrée. Les administratifs prennent vos coordonnées pour manipuler le moins d'objets possible. Ils vous demandent de venir seul si vous êtes dépendant. Si vous accompagnez une personne dépendante, une seule personne accompagnera la personne dépendante. Et s'il y a un mineur, un seul parent. Les cabas, les caddies, les choses comme ça, les affaires, on les laisse dans la voiture. Les gens ont toujours la possibilité d'attendre dans la voiture s'ils se sentent pas en sécurité. Mais le hall de la maison de santé qui fait 150 mètres carrés contient maintenant deux grandes salles d'attente où les gens ont 3-4 mètres d'écart entre eux. De toute façon, c'est encore sur rendez-vous. Donc, il y a 4 personnes, en gros, dans 40 mètres carrés pour respecter, encore une fois, les distanciations sociales. Et au rez-de-chaussée, tout le monde porte un masque.
Donc, oui, il y a un circuit. Les chaises pour attendre, si on veut s'asseoir pour attendre, sont distantes de presque 2 mètres, hein, pratiquement. Vous avez vraiment prévu large.
Il y a une désinfection matin, midi et soir à l'eau de Javel. Et dans les bureaux d'examen, une fois qu'on organise la consultation, le médecin désinfecte après chaque passage tous les objets potentiellement touchés.
C'est-à-dire que
la chaise pour laquelle s'installe le patient, le stéthoscope, la souris, le clavier, l'appareil pour prendre la tension.
Alors, quand on dit désinfecter, pour bien comprendre ce que fait le médecin, il nettoie, il frotte, ou est-ce qu'il a un produit qu'il disperse dans la salle, enfin dans sa pièce, comment ça se passe?
Je vous rappelle que le coronavirus est transmissible par deux principales voies. La transmission, ce qu'on appelle gouttelette. Donc, pour éviter ça, le patient porte un masque et nous portons un masque. Donc, double protection. Et la deuxième transmission, c'est par les mains. Donc, dès que vous en rentrez dans l'accueil de la maison de santé, l'administratif vous donne une dose. C'est-à-dire, vous touchez pas au flacon. Hein, il verse une dose dans vos mains en pressant sur un flacon doseur. Avec la dose, il vous demande de vous laver les mains. Il y a des affichages pour montrer comment on se lave les mains avec la friction hydroalcoolique. Ensuite, le patient rejoint la salle d'attente. Ensuite, il est vu par le médecin. Le médecin s'est lavé les mains avant, après, et pendant la consultation avec du soluté hydroalcoolique. On propose encore une fois du soluté hydroalcoolique au patient. On réalise notre consultation. Et à l'issue de la consultation, on raccompagne le patient à l'extérieur par une autre sortie, pour éviter des croisements de patients qui rentrent et qui sortent. Et
alors nous, là, je vous arrête.
Dans 5 minutes.
Je vous arrête une seconde. Qu'est-ce qui se passe dans cette première consultation?
Dans cette première consultation, le rôle du médecin qui reçoit un patient Covid possible, il a deux rôles. Le premier rôle, enfin trois rôles. Le premier rôle, c'est de voir si le patient est grave. Il est atteint de signes de gravité. Donc on mesure quelques paramètres, on ausculte les poumons. On calcule la fréquence respiratoire, c'est-à-dire combien de fois vous respirez en une minute. Au-dessus de 22, c'est potentiellement grave. On mesure la température avec un thermomètre sans contact. On mesure le pouls avec un capteur et le taux d'oxygène dans le sang avec un appareil qui s'appelle un oxymètre de pouls, un saturomètre. Mais quand c'est en dessous de 95, c'est pas normal. Enfin, quand un de ces critères-là est retenu, on appelle le 15 pour voir de quelle prise en charge nécessite le patient en fonction du reste, des comorbidités.
Excusez-moi, à partir de cette première visite, vous avez déjà un diagnostic qui dit attention, ça relève de quelque chose de grave. Et là, ça peut être une réorientation par rapport au circuit que vous allez décrire maintenant.
Déjà, on va finir notre consultation, parce qu'il y a un certain nombre de choses à faire avant d'appeler le 15. Et on sait déjà qu'il va falloir qu'on prenne un avis sur le centre 15 pour voir si ce patient est inhabituellement dans des paramètres anormaux. On demande au régulateur quoi faire et on s'organise avec le 15 pour voir si on l'adresse directement à l'hôpital par ses propres moyens, par ambulance, ou si on le laisse à la maison avec un suivi très rapproché.
Donc,
ça, c'est les facteurs de gravité.
Donc, si un patient passe déjà ce première étape sans aller vers les tests, ça veut dire que pour l'instant, le doute subsiste sans qu'il y ait d'alerte de gravité, c'est ça?
Quand vous dites le doute, en fait, le doute, il reste longtemps possible. C'est le doute sur le coronavirus que vous voulez dire.
Oui, c'est ça.
Dès que vous passez l'examen en bas de la maison de santé, c'est que un certain nombre de paramètres nous disent que c'est Covid possible.
D'accord.
Covid possible, ça veut dire que on est en pandémie et que beaucoup de malades, un certain nombre de malades présentant des pathologies ORL de toux et de fièvre sont susceptibles d'être porteurs du virus. Malheureusement ou heureusement, on n'a pas besoin de tester tout le monde parce que tout le monde n'est pas dans le même degré de gravité. Et ça n'a pas d'intérêt de tester quelqu'un qui n'a pas de facteur de gravité parce qu'il va faire une mauvaise grippe, entre guillemets, même si c'est loin d'être la grippe, mais il a très peu de risques de se retrouver à l'hôpital. Donc l'autosurveillance, le respect des consignes de confinement, le respect des consignes d'hygiène, l'explication des signes de gravité suffiront aux patients pour reconsulter le 15 s'il a des anomalies qui surviennent. La différence, c'est que si on a des signes de gravité d'emblée, on peut plus attendre. Si on a des facteurs de risque de gravité, qui sont l'âge supérieur à 70 ans, le fait d'avoir des maladies chroniques qui peuvent décompenser, que ce soit respiratoire ou cardiaque.
Alors clairement, quels sont ces types de maladies alors?
Comment?
Quels sont ces types de maladies chroniques? Est-ce qu'on peut en citer quelques-unes?
Voilà. On peut citer des insuffisances cardiaques, des gens qui ont du mal à, leur cœur a du mal à fonctionner, ils sont essoufflés par une insuffisance cardiaque. On peut citer la bronchite chronique, des gens qui sont essoufflés en montant un escalier. On peut citer des asthmes qui sont pas équilibrés, des gens qui consomment de la ventoline quotidiennement. On peut citer des diabètes qui sont pas équilibrés, qui sont pas on mesure un paramètre biologique tous les trimestres et ils peuvent ne pas être bien équilibrés ces patients-là sont plus susceptibles de se dégrader. Il y a aussi les gens qui prennent des traitements qui baissent leur défense, qui sont en bonne santé, mais ils ont des traitements pour la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques, les maladies digestives hémorragiques, la rectocolite, la maladie de Crohn, et tout un tas d'autres, des certaines formes de psoriasis qui ont des immunosuppresseurs ou immunomodulateurs. Il y a des pathologies inflammatoires qui nécessitent des corticoïdes au long cours. Ce sont aussi des gens qui ont des sur-risques de s'aggraver s'ils présentent le Covid. C'est un certain nombre de critères qui ont été relevés dans les premiers cas de Chine et qu'on revoit en réanimation.
C'est-à-dire clairement, la difficulté, c'est qu'on a affaire là à des personnes qui ont des maladies pour lesquelles ils doivent continuer évidemment à se soigner. Et pour autant, en cas de Covid, ça peut compliquer les choses. C'est ça que vous dites.
Oui, ils sont plus à risque de se dégrader. Donc,
sans que ce soit forcément une règle.
Je rajoute quelques catégories. Les gens de plus de 70 ans, par définition, ils ont un système immunitaire qui commence à baisser, même s'il y a des gens en excellente forme après 70 ans, bien sûr. Et ce qu'on appelle les obèses, c'est-à-dire les gens qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 30. Critère a changé en début de semaine, maintenant c'est 30.
Et c'était combien avant alors?
Avant, c'était 40.
Alors, ça correspond. Vous pouvez rappeler ce que c'est que le rapport? Parce que les gens, ils ne savent pas forcément ce que c'est. C'est un rapport poids et taille, par exemple.
Poids sur taille au carré. En gros, si vous faites 1m70 et votre poids est de 90 kg, poids sur taille au carré, l'indice de masse corporelle, il doit être inférieur à 30 pour ne pas être obèse. Et en fait, pour un poids de 87 kilos et 1m70, vous êtes à 30.
D'accord.
Donc c'est quelqu'un qui est un peu enrobé, mais ça se voit bien.
C'est-à-dire,
mais le médecin le calcule, en fait. C'est ce qu'on appelle, il y a le critère du surpoids. Vous êtes un peu en surpoids, c'est de 25 à 30, et l'obésité, c'est au-dessus de 30. Les deux dernières catégories qu'on va proposer au test, hein, donc là, on a balayé un certain nombre de maladies, mais vous voyez, c'est pas j'ai de la tension, c'est pas je prends un traitement pour les allergies, c'est pas tout le monde, quoi. C'est pas je fais de la sinusite chronique ou je fais deux épisodes de bronchite. C'est pas je suis fumeur. Hein, les fumeurs sont pas dans les catégories étiquetées comme à plus grand risque. C'est pas je suis un homme. Voilà. Il y a d'autres maladies où le caractère homme-femme peut privilégier ou aggraver le système. Donc les deux autres catégories de personnes qu'on va proposer le test, à qui on va proposer le test, sont les femmes enceintes du troisième trimestre. Parce que là, on n'a pas beaucoup de recul sur de cette année de Covid. Et dans le doute, on préfère les surveiller, les tester pour voir, si, au moindre doute, les surveiller plus attentivement. Et la dernière catégorie particulière, ce sont les professionnels de santé qui présenteraient des symptômes du Covid. Eux, on les teste pour voir quand est-ce qu'on doit les arrêter, quand est-ce qu'ils peuvent reprendre le travail. Parce que même si dans notre région, l'épidémie commence, hein, vous l'avez dit, 10 cas pour 100 000, c'est le seuil épidémique du Covid. On est à 43, donc on est bien dans le seuil épidémique. Mais à Mulhouse, tout ça, les structures sanitaires sont au ras de leurs limites. C'est pour ça que des malades sont transférés dans notre région en réanimation. On n'a pas forcément beaucoup de cas en réanimation de malades sartois ou des Pays de Loire qui se sont aggravés, mais on a aussi des malades de l'Est qui sont arrivés. Ceci dit, on peut pas. Je ne suis pas la boule de cristal. Je ne sais pas du tout comment l'épidémie va progresser
alors,
avec le confinement.
Alors, on va revenir directement au sein de la maison.
Et on prépare.
Au sein de la maison de santé, donc je répète, hein, pour l'instant, donc on est passé au premier contrôle avec des étudiants, on porte le masque, on va s'installer dans une salle qui se trouve au rez-de-chaussée, donc dans le couloir, dans le hall, donc il y a de l'espace. Un médecin accueille le patient et fait les premiers contrôles et réunit les premières données. Si le patient continue le chemin, que fait-il exactement après?
Ce premier chemin-là, dans tous les autres cabinets, c'est réalisé comme ça, de Sarthe et de France. C'est-à-dire, les médecins évaluent, interrogent, examinent et annoncent aux patients qu'ils peuvent être possiblement atteints par le Covid. La dernière élément qu'on leur donne, c'est oui, vous avez possiblement le Covid et oui, vous avez les facteurs de risque, donc je vous propose un test. Donc, en France, où jusqu'il y a 10 jours, on proposait le test, il était réalisé qu'au centre hospitalier du Mans. Depuis maintenant une semaine, 8 centres se sont ouverts de dépistage en ville, entre guillemets, en ambulatoire, ce qu'on appelle. Donc 6 centres armés par la médecine du travail, dans les locaux de la médecine du travail, et 2 centres libéraux que sont Château-du-Loir et Sillé. Et donc à Sillé, on a encore une autre organisation dans les locaux du kiné, en fait, pour tout vous dire. Donc on transfère le malade entre guillemets, c'est-à-dire il change de salle d'attente dans le même hall. Et on le propose à une autre équipe, médecin-infirmier, qui administrativement va refaire le même interrogatoire pour avoir une trace administrative, parce que là, on est sous organisation Hôpital du Mans, donc on a aussi, vous savez, on doit colliger des données de santé, tenir un dossier, répertorier un certain nombre d'éléments pour recontacter le patient. Et ce patient, donc Covid possible à risque, va avoir le test. Donc, il est reçu par un administratif pour les papiers, un autre médecin l'interroge à nouveau, et l'infirmière lui fait le prélèvement dans des conditions d'hygiène très particulières.
Alors expliquez-nous un peu ce prélèvement. Alors,
l'infirmière est habillée de telle sorte, c'est-à-dire on s'habille en début de période avec nos vêtements civils, mais avec une blouse, donc une blouse propre, lavable, évidemment propre. Hein. On met une surblouse entre chaque patient, c'est-à-dire cette surblouse va être jetée entre chaque patient, et l'infirmière met un tablier plastique en plus, parce que elle va et réaliser seul le prélèvement qui se fait au fond de la narine. Et donc, il n'y a que l'infirmière seule qui est exposée au risque de projection gouttelette. Et donc, elle doit être extrêmement bien protégée par des lunettes de protection, par une charlotte sur ses cheveux, par un masque de double protection qu'on appelle FFP2, de meilleure protection que les masques qu'on voit en papier classique FFP1. C'est cela qu'on cherche, c'est cela qui nous manque, mais on en a. Et donc, elle a le tablier, la surblouse, la blouse, des surchaussures et des gants.
Alors, ce qu'il faut...
Et puis, évidemment, avant tout ça, après tout ça, pendant tout ça, elle se lave plusieurs fois les mains entre chaque geste contaminant et elle fait le prélèvement. Une fois le prélèvement réalisé, elle libère le patient. Et une fois qu'elle a libéré le patient, nous, on est sorti au tout début de la consultation. En fait, on fait l'interrogatoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les mêmes démarches.
Oui.
L'infirmière reste seule avec le patient pour réaliser le prélèvement. C'est la nouvelle étape de cette structure-là parallèle. Le patient est reconduit dans le hall. On lui donne ses ordonnances de sortie. On lui a aussi, pendant la consultation, pendant 10 minutes, expliqué toutes les consignes de surveillance qui doivent le conduire à appeler le 15 en cas d'apparition de signes de gravité, les consignes d'hygiène, ce que j'appelle le confinement dans le confinement, c'est-à-dire comme il est Covid possible testé et qu'il soit positif, il doit encore plus se séparer de sa famille, s'isoler dans la maison quand c'est possible, désinfecter les objets qui sont en commun avec de l'eau de Javel diluée à 10%, donc 3 bouchons dans un chip-sheet de 750 ml ou un berlingot dans un seau rempli à moitié pour faire les 10% pour désinfecter les surfaces communes. Se laver les mains autant que possible, tousser dans son coude, enfin les mesures barrières ils sont bien connus des Français maintenant. Donc à l'issue du prélèvement et quand le patient est sorti, l'infirmière désinfecte complètement son box, c'est-à-dire les parois des murs à portée du patient, la chaise du patient, la table sur laquelle on met quelques objets. Dans ce box-là, il n'y a qu'un thermomètre, un saturomètre, un stéthoscope, c'est tout désinfecté. Le crayon est désinfecté. Le prélèvement, il est sous 4 emballages, c'est-à-dire le petit bâtonnet coton est emballé dans un tube plastique. Ce tube plastique est désinfecté parce qu'il va être manipulé par un biologiste ou une manipulatrice biologiste au laboratoire à la fin de la chaîne. Il est désinfecté avant d'être mis dans un sac, dans une petite pochette plastique qui elle-même est mise dans une boîte en plastique qui elle-même est mise dans une glacière. C'est ça les 4 transports. Pour sécuriser le transporteur, enfin tous les acteurs de la chaîne, c'est 7 glacières 2 fois par jour par au laboratoire Laborizon du Mans.
Alors c'est le Mans qui analyse, hein, c'est ça, oui, c'est pas fait sur place.
Le laboratoire privé du Mans, oui.
Ok. Le test qui est fait, parce qu'il y a plusieurs formes de tests ou de prélèvements, comment il s'appelle, PCR, c'est ça?
Alors, ce qu'on recherche, c'est une partie du virus qui est présente dans les fosses nasales postérieures, donc l'arrière de la narine, au fond du nez, hein, sur la partie de la gorge postérieure en arrière du nez. Et c'est pour cette raison que le prélèvement n'est pas très agréable. Ceux qui l'ont vécu ont un petit peu la larme à l'œil. C'est pas un test très très agréable à supporter.
Mais il faut pas que ce soit dissuasif, voilà.
D'autant que quand le coton-tige est au fond de la narine, c'est-à-dire 6-8 cm enfoncés, hein, c'est vraiment pas une bonne image, les images qu'on voit à la télé, des prélèvements au bord de la narine, c'est pas là où le virus est le plus présent. C'est sûrement pas des bonnes conditions pour avoir des tests de bonne qualité en termes de réponses positives. La bonne méthode, celle qu'on nous a appris à l'hôpital du Mans ces jours-ci par les hygiénistes, les infectiologues, c'est au fond de la narine, 6-8 cm, c'est un tout petit bâtonnet, il est très fin, hein, c'est pas comme un coton-tige, il est long, mais plus fin qu'un coton-tige. Et l'idée, c'est de récupérer des cellules de la muqueuse qui sont contaminées par le virus. Ces cellules sont portées sur le coton-tige. Une fois qu'on a réalisé le prélèvement, 15 secondes de tournicotis dans la narine gauche, 15 secondes de tournicotis dans la narine droite, cet écouvillon est ce qu'on appelle touillé dans un tube avec un liquide de prélèvement pour que les cellules se désagrègent du coton-tige et aillent dans le milieu de transport. Et après, ce tube plastique avec le prélèvement va dans une machine pour faire une PCR, oui, une analyse à la recherche du génome, d'un certain nombre de génomes du virus, et on reçoit les résultats 24 heures, 36 heures après, pour voir s'il y a 1, 2 ou 3 parties du génome du virus qui nous signent que le test peut être positif. Enfin, le test est positif.
Alors, comment est-ce que le patient est informé du résultat? Ça se passe par Internet ou ça se passe par un coup de fil de la maison médicale?
Alors, il reçoit des codes d'accès pour voir son résultat, puisque le prélèvement est organisé par le laboratoire privé. Mais nous, dès qu'on reçoit les résultats, on l'appelle. C'est-à-dire qu'on guette les résultats, hein. C'est pas à heure fixe. J'en ai eu tout à l'heure à 5 heures. Il faut que j'appelle les gens juste après notre entretien. On les prévient dans les deux cas, négatif ou positif. Le test négatif, enfin, tout test de médecine doit avoir une bonne raison. Si vous répondez la même chose après que le test soit négatif ou positif, ça n'a pas grand sens. Donc là, quand le test est négatif, ce qui se passe, c'est qu'on reconfie le patient à sa surveillance de lui-même. Il a un faible risque d'être porteur, parce que je vous l'ai dit, il y a quelques faux négatifs.
Alors, qu'on soit très clair, pour que les personnes qui nous écoutent comprennent bien, quand on dit négatif, ça veut dire qu'on n'a rien trouvé de mauvais, quoi. Voilà, c'est ça.
Ça veut dire que le test n'a pas révélé de cellules du virus, enfin de virus, de partie du virus dans le test.
Donc le négatif est une bonne nouvelle et le positif est une mauvaise nouvelle, en fait, c'est ça en gros.
Le positif, c'est le signe que vraiment on est porteur du virus. Le négatif, le problème, c'est que y a ce qu'on appelle des faux négatifs. Les faux négatifs principaux, c'est le méthode de prélèvement. C'est, je vous dis, le drive à la narine, là, ah oui, qu'on voit à la télé. Il y a sûrement 50% de faux négatifs. C'est-à-dire, un patient sur deux est quand même porteur, mais on lui dit qu'il est négatif. Parce que si vous n'allez pas prélever les cellules au bon endroit, vous n'êtes pas prêt de les trouver.
D'accord.
Si vous regardez votre niveau d'huile dans la voiture, là où il y a du lave-glace, vous ne pouvez pas dire s'il manque d'huile. Vous voyez? Les autres faux négatifs, c'est que si on est un peu après l'infection, le malade n'est plus transmetteur, il n'y en a plus, mais il est plutôt guéri. Mais ça, on n'a pas les tests pour le faire. C'est un autre type de test, ça s'appelle des sérologies. Et si on est au tout début de la maladie, la quantité de virus peut ne pas être importante et on peut ne pas le détecter. Mais ça, c'est tout test de médecine, il a aussi ses inconvénients. Il n'est jamais fiable à 100%.
Mais alors, est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui serait négatif aurait éventuellement intérêt à repasser plus tard un test ou qu'est-ce qu'il doit faire
Alors, c'est pas dans les recommandations. Par contre, ce patient-là, on lui donne les mêmes consignes de surveillance. On lui dit de rappeler le 15 si ça grave. On lui dit de ne pas hésiter à appeler son médecin traitant s'il a un autre problème de santé pour réévaluer les choses. On le reconfie à son circuit habituel de soins, tout en lui expliquant qu'il n'hésite pas à appeler le 15 en cas du moindre symptôme. Donc l'équipe Covambu, là, puisque ce dont on parle, ce sont les centres de dépistage du Covid, et en Sarthe, ça s'appelle Covambu pour Covid ambulatoire, dépistage ambulatoire. Quand le test est positif, par contre, il y a un autre chemin.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Quand le test est positif, on vous rappelle donc le lendemain, et lors de ces consultations-là, on s'attache à savoir quand est-ce qu'a débuté les premiers symptômes.
Donc le patient revient.
Non, au tout début de la consultation, que ce soit dans le centre Covid qui fait pas de test ou dans le centre Covambu qui fait des tests, dans l'interrogatoire médecin, il y a quand est-ce que vous avez présenté les premiers symptômes. Nous sommes le 1er avril, dites-moi quand est-ce que vous avez commencé à tousser ou avoir de la fièvre ou avoir des courbatures ou avoir des frissons ou avoir une perte d'odorat. Expliquez-moi par symptômes, quand est-ce que les symptômes a commencé. Et nous, on prend le premier symptôme qui est apparu. Si le patient nous dit « j'ai perdu le goût il y a 2 jours et j'ai de la fièvre depuis 5 jours et je tousse depuis 7 jours », eh bien on dit, par rapport au 1er avril, que les symptômes ont commencé le 25 mars. Pourquoi on dit ça? C'est parce que pour l'instant, le recul qu'on a, c'est qu'on sait que les gens peuvent s'aggraver brutalement entre le 7e et le 9e jour. Et donc il faut absolument qu'on cadre cette surveillance à ces jours-là. Donc, il y a, comme je vous l'ai dit, le rappel du test. Vous êtes positif. Eh bien, écoutez, vous surveillez votre température matin et soir. Vous n'hésitez pas à appeler le 15. Et je vous rappelle à J7 des premiers symptômes. Donc, vous voyez, si on prend l'exemple du 25 mars, j'appelle le patient aujourd'hui, 1er avril. Il faut que je le rappelle demain parce qu'il est au 7e jour de ses symptômes. Et je le rappellerai donc jeudi et 3 jours dimanche. Il sera au 10e jour de ses symptômes. De façon systématique, le médecin qui prélève ou l'infirmière qui prélève rappelle le patient. parce que c'est la même équipe. Il y a déjà une connaissance du patient. Et évidemment, le patient, il peut rappeler le 15 entre deux. Et on le rappelle au 14e jour pour lui dire que, en l'état actuel des connaissances, on estime que la 14e est la fin de la période de maladie. Et que si ça fait 2 jours qu'il n'a plus de symptômes, il peut se considérer comme guéri et reprendre ses activités habituelles, son travail, tout en gardant les mesures de protection barrière, gouttelettes et lavage des mains qui sont imposées en ce moment et nécessaires.
Alors, actuellement, combien vous avez fait de tests depuis que le centre est ouvert sur Ciel Guillaume ?
35 environ, depuis jeudi après-midi.
Depuis une semaine, quoi.
On a fait deux jeudi, on s'est réentraîné, mais on avait une procédure démontrée à blanc. Et donc, on a pris deux patients jeudi après-midi pour que les équipes se forment et qu'on soit bien au top dans le protocole, les procédures d'hygiène. Et puis, comme on n'était pas connu comme centre, aussi le recrutement s'est pas fait rapidement. Maintenant, les médecins libéraux de Sarthe savent qu'il y a des centres de dépistage en ambulatoire autres que le CHM, le centre hospitalier. Il y a une plateforme téléphonique qui est dédiée aux médecins et aux 15 pour organiser les plannings de rendez-vous et les répartir sur la Sarthe, parce que vous comprenez bien que Le Mans fait environ 300 000 habitants, il y a 3 centres et il y a 4 ou 5 centres périphériques pour les 300 000 habitants. Donc la demande au Mans est forte et les gens qui peuvent pas prétendre à leur test dans la journée au Mans, on leur propose d'aller en périphérie. D'accord. Et bien souvent ils viennent parce qu'ils sont inquiets évidemment.
Alors, si ça ne rentre pas dans le secret médical, actuellement, sur les tests qui ont été faits sur le secteur de Ciel-Guillaume, c'est une question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a déjà eu des cas positifs sur le secteur de Ciel-Guillaume ?
Alors, je ne donnerai pas les statistiques parce que d'abord, je ne les ai pas mesurées, mais évidemment, il y a des cas positifs puisqu'ils présentent des symptômes assez typiques et que vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a 43 cas pour 100 000 habitants, quand on cherche des gens qui ont des symptômes ou des facteurs de gravité, on en trouve. Tous les tests ne sont pas positifs, bien au contraire. Il y a quand même de la pathologie ORL, des allergies, enfin d'autres sources de toux, des toux chroniques. Mais il vaut mieux tester, comme dit notre président, pour savoir comment ça se passe dans le pays et surtout prévoir l'après, c'est-à-dire que s'il y a plein d'équipes qui testent, on pourra, dès certains cas, adapter les mesures de confinement, d'isolement, au plus près du malade, au plus près de ses contacts, et réduire ce qui s'est mal passé à Mulhouse avec le rassemblement évangéliste, qui a été une espèce d'incubateur et qui a disséminé sur toute la France, comme les médias vous l'ont dit.
Alors, ce qui se dit clairement, c'est que le pic de l'épidémie serait pour la fin de la semaine et la semaine prochaine. Est-ce que vous confirmez cette vision des choses ? Et est-ce que vous craignez qu'il y ait éventuellement une pression plus forte sur les consultations sur le Covid-19 auprès de la maison médicale de Sillé ?
Je ne suis que médecin généraliste et je m'attache à essayer de faire à peu près bien mon métier, mais je ne suis pas épidémiologiste, scientifique, chercheur. Mais et j'espère, parce que c'est quand même le but du confinement, qu'on n'aura pas de pic. Ça veut dire que le nombre de cas augmentera en plateau, restera stable, baissera, et ça nous permettra de bien prendre en charge tous les patients Covid positif pour les suivre, ou les patients habituels, pour ne pas déborder nos structures d'amont, hein, les premiers recours, ce qu'on appelle, donc les médecins généralistes, les infirmières, les médecins spécialistes de ville, et au final aussi pour ne pas saturer les lits de pneumologie, de réanimation, même si l'hôpital s'est extrêmement bien organisé depuis 3 semaines avec le plan blanc et les rangs des lits.
D'accord.
Mais je ne peux pas vous prédire l'avenir. On a la chance, entre guillemets, d'être une des dernières régions touchées. Et on a le temps de s'organiser, donc d'anticiper. Espérons que les mesures qu'on prend suffisent à gérer les choses.
Une dernière question, c'est sur la façon dont on reconnaît chez soi, confiné, un symptôme, on va dire, de maladie classique et un symptôme qui pourrait s'apparenter Covid. Qu'est-ce qui ressemble plus à une toux qu'une autre toux, des courbatures qu'une autre courbature, une fièvre qu'une autre fièvre ? Est-ce qu'il y a des moyens de distinguer les choses ? Et est-ce que il faut automatiquement qu'il y ait deux symptômes ensemble, ou est-ce qu'un seul déjà doit alerter?
Dans ce qu'on nous dit dans l'état actuel des connaissances, il faut considérer tout trouble ORL comme Covid possible. Après, à nous de faire la part des choses sur ce qui est une otite chez l'enfant de 2 ans ou un tableau de sinusite, mais c'est un examen ou un interrogatoire ou une téléconsultation qui permet d'évaluer les choses. Mais nos collègues spécialistes, nos collègues réanimateurs, nos collègues cardiologues disent que des malades décompensent et que souvent on voit à l'origine le Covid, ce qui montre bien qu'il y a des patients qui sont probablement sans symptômes, et heureusement qu'il y en a, ça veut dire qu'ils s'immunisent, qu'ils font peu de symptômes, une petite toux, un petit rhume, le virus passe à travers eux, et tant mieux pour eux, ça sera fait, et dans quelques mois, quand on pourra voir s'ils sont immunisés par une sérologie, une prise de sang, comme on regarde si on est immunisé contre la toxoplasmose pendant la grossesse, ou contre la varicelle, si on veut se faire vacciner pour la varicelle, peut-être qu'on aura une sérologie dans quelques semaines qui nous permettra de voir si on l'a eu ou pas, parce que la stratégie derrière, c'est si on l'a pas eu et qu'on a un vaccin, on proposera aux gens de se faire vacciner. Si on l'a eu et qu'on on n'aura pas besoin de vaccin. Mais aujourd'hui, dire non, tel toux, c'est sûr, c'est pas du Covid, ou telle fièvre, c'est oui, c'est sûr, c'est du Covid. Non, c'est pas possible. C'est pour ça d'ailleurs que il y a eu une petite confusion en disant que ça n'est qu'une banale grippe, parce que dans la grippe, vous savez bien que les symptômes sont un peu diffus. Bien, souvent, il y a plus de 38,5. Souvent, il y a de la toux. Souvent, il y a des maux de tête. Mais un peu de tout. Des fois, il n'y a pas grand-chose. Des fois, il y a 3 malades à la maison et le 4e a très peu de symptômes. Des fois, chez une grippe, le papa est à 42 fièvres et au lit, et puis le gamin, il saute partout, il a 38,5 et il est en pleine forme. Donc non, les tableaux sont très variés, mais encore une fois, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont peu de symptômes, qui sont pas dépistés, qui sont pas repérés, et que la mortalité qui nous fait peur, hein, parce que quand on entend 2%, on se dit, voilà, on est dans une salle, on est 200, il y en a 4 l'année prochaine qui seront pas là. Ça fait peur, mais on commence à voir qu'il y a des gens qui ont peu de symptômes, qui probablement ont eu la maladie ou transmettent, et en guérissent très vite. C'est difficile d'avoir le nombre de chiffres de guérison. Quand on vous parle à la télé des guérisons, c'est les gens qui ont été hospitalisés qui sortent. Donc ils ont été testés positifs. Mais il y a des gens aussi qui font de la fièvre 8 jours, 10 jours, qui n'ont pas de facteur de risque, qui sont Covid possibles. Comme on l'a vu tout à l'heure, qui ne sont pas testés parce qu'ils n'ont pas de facteur de risque, et donc ils ne sont pas repérés par les chiffres de l'État qu'on nous donne tous les soirs.
Alors, est-ce qu'on peut rappeler les horaires d'ouverture pour la maison de santé pluridisciplinaire, et donc qu'est-ce qui se passe en dehors de ces heures d'ouverture? Que doivent faire les personnes qui auraient un trouble ou sentiraient un symptôme qui les inquiète la nuit?
Oui, c'est ce par quoi on a commencé les 4 missions de la maison de santé, donc l'accueil des patients classiques, le centre Covid, les Covid possibles sans test, le centre Covambu, les Covid possibles avec test, et la maison de garde. Donc la maison de santé est ouverte en journée de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h. En dehors de cette période, il y a un médecin de garde qui est disponible et qui se déplace sur régulation du 15, de 20h à minuit tous les soirs, et de midi à minuit le samedi, et de 8h à minuit le dimanche et les jours fériés. Par le 15, parce qu'on est un petit territoire et la garde est ce qu'on appelle n'est pas postée, puisqu'on voit une quinzaine de patients par jour. Et vous imaginez bien que nos journées en ce moment, ou comme avant, sont bien remplies. Et 15 patients pour le week-end, on traîne pas au cabinet, on n'est pas très loin, on vient prendre notre consultation ou les 3 consultations, et on assure la permanence des soins qui est très bien organisée en Sarthe par l'ADOP 72, et qui a ouvert 10 maisons médicales de garde pour que tous les patients de la Sarthe puissent bénéficier d'un service de garde en dehors des cabinets ouverts, dans les horaires que je vous ai dit, en assurant aux médecins de ne pas avoir plus de 25 km 25 minutes à faire, et aux patients, plus de 25 km et plus de 25 minutes à faire. C'est comme ça que c'est découpé la Sarthe.
Alors, on va terminer en parlant de vous et de l'ensemble des personnes qui agissent pour les patients. Est-ce que vous disposez de tout le matériel nécessaire? Est-ce que les choses s'améliorent, comme on le dit? Est-ce que vous êtes bien tous protégés, infirmiers, volontaires, médecins, ou est-ce qu'il y a des choses qui éventuellement vous inquiète, parce que pour vous, quand même, ça doit être une période assez stressante.
Alors, la petite famille de la maison médicale que les Sidéens connaissent bien depuis 2000 s'est agrandie en 2013. On est maintenant une trentaine, avec de nombreux paramédicaux, des administratifs, des secrétaires, des employés de fonction de ménage. C'est une grande famille qui a été très solidaire cette année encore une fois pour répondre aux besoins. Et tout le monde s'est engagé, y compris ceux qui ont dû fermer leur cabinet, nous ont rejoints dans les équipes qu'on a décrites. Ce qui nous permet de tenir la route avec des beaux effectifs et une belle ambiance, malgré ces temps de crise. Le matériel, c'est sûr que c'est tendu. Les masques arrivent maintenant de façon hebdomadaire par le circuit des pharmacies. Donc on a une dotation de masques. Le réseau Covambu nous assure des équipements par l'ARS de protection individuelle. Donc ce que je vous ai dit là, maintenant désormais on n'est plus dans le don, on est dans les charlottes, les surblouses, les blouses, les solutés hydroalcooliques fournies par l'ARS et aussi la veille sanitaire, la réserve sanitaire d'Angers nous fournit les solutés hydroalcooliques par l'intermédiaire de nos communautés de communes qui en ont fait la demande et qui maintenant répartissent sur le territoire. Ces solutés hydroalcooliques aussi, le matériel, ce produit-là est en tension en France. Mais c'est vrai que ça fait 3 semaines que notre réseau des 30 que je vous dis a fait marcher son téléphone et a essayé de récupérer des blouses, des surblouses. On est équipé avec les pyjamas du dentiste, les blouses du kiné, les charlottes de l'hôtel de Paris, les tabliers de cuisine de l'hôpital local, des masques H1N1 2009 que la mairie nous a gentiment cédé, qui étaient dans ces stockages, et j'en passe. Le château de Agro-Évolution de Sourges qui nous a fourni 300 blouses et surblouses au moment où on allait commencer, on avait que 10 blouses, on pouvait faire que 5 tests. Agro-Évolution, château de Sourges. Monsieur Renouf nous a gentiment répondu tout de suite en 12 heures et livré les 300 surblouses qui nous ont permis de démarrer et d'assurer. On en utilise 2 par patient. Alors, vous voyez, on en avait 10, on pouvait faire que 5 tests, on était bloqué parce qu'on pouvait pas, l'hôpital ne voulait pas qu'on fasse les tests si on n'était pas protégé, c'est ce qui est bien normal.
Oui, tout à fait.
Cette entreprise, et je le remercie encore vivement, nous a permis de démarrer parce que personne n'avait des blouses. L'ARS fait ce qu'elle peut, hein, vous avez bien compris.
Bien sûr.
Ou tout du moins, je vous le rappelle, la Chine a pu prévoir ses matériels parce que 50 millions sur 1 milliard, c'est 5% de la population. Donc nous, si on avait une épidémie qui touchait 5% de la population, on aurait eu les respirateurs, le matériel, les personnels, les hôpitaux. Sauf que l'épidémie, elle a touché toute la France de façon brutale et très brutale dans certaines régions et le monde entier en même temps. Donc tous ces équipements-là sont épuisés ou en tension sur l'ensemble de la planète.
D'où l'importance de la solidarité locale telle que vous venez de la décrire et qui fait chaud au cœur de voir que finalement tout le monde avec son métier essaye d'apporter quelque chose à la priorité qui est quand même effectivement oui. l'accueil médical quoi, hein, donc
oui, et les petits gâteaux et les attentions et les remerciements des patients, ça fait toujours chaud au cœur. On les remercie encore.
Voilà, ben on va terminer là-dessus, si vous le voulez bien, Emmanuel Charrier. Je rappelle que vous êtes l'un des médecins de la maison de santé.
Oui, on est 9.
Hein, voilà.
Tout seul. Ça marcherait jamais tout seul.
Absolument.
On est une grande équipe et qui d'année en année recrute des jeunes parce que, je vous l'ai dit, c'est une grande famille. Et quand ils viennent faire leur stage d'internat ou des remplacements, certains d'entre eux disent, il n'y a pas une petite place pour moi. Et s'il n'y en a plus maintenant chez nous, on a aussi permis, par cette grande ambiance locale, on retrouve les mêmes organisations à Conly-Beaumont et pour ces autres sites Conly-Beaumont-Fresnay, il y a aussi des jeunes qui sont arrivés. Donc Heureusement pour nous, notre territoire sartois, là, dans ce coin-là au moins, est pas trop en tension sur le plan des effectifs médicaux.
Voilà, vous me permettrez de conclure un peu au nom des auditrices et auditeurs en vous remerciant et vous félicitant pour l'ensemble du travail que vous faites avec tous les jeunes, y compris qui vous ont rejoint récemment, parce que c'est important. Et on vous souhaite bon courage dans la continuation de votre travail contre le Covid-19. Au revoir, Emmanuel Charrier.
Merci, au revoir.
Les documents d'information diffusés par Fréquence Sillé pendant cette période sont réalisés en situation de confinement avec les moyens élémentaires en termes techniques. Pour cela, nous vous demandons de nous excuser de la qualité parfois très incertaine d'un certain nombre de nos documents. Mais il vaut mieux avoir de l'information, même si la qualité est incertaine, que pas d'information du tout.